Ce matin, on continue notre série sur le livre des Actes et on en est au 35e épisode. Et vous savez comment on a intitulé cette série ? Mieux qu'une série Netflix. Le livre des Actes, c'est mieux qu'une série Netflix. Et vous allez voir que ce matin, c'est aussi des rebondissements, des choses qui nous étonnent. Peut-être que même certains d'entre vous, lorsqu'ils ont lu le texte qu'on va lire, ont arrêté de manger du boudin. On peut être même arrêté de regarder Mission Impossible avec Tom Cruise ou bien d'aller à Nature et Découverte parce qu'ils ne veulent pas faire la promotion de la scientologie. Mais de quoi ils nous parlent ? Vous allez vite vous en apercevoir. En tout cas, nous sommes au chapitre 15 et c'est le moment où nous assistons au premier grand concile de l'histoire du christianisme. Il a eu lieu à Jérusalem, il y avait des apôtres qui étaient présents, et ils ont dû répondre à une question qui perturbait les Juifs de l'époque. Parce qu'au tout début de l'histoire, de l'Église, il n'y avait quasiment exclusivement que des Juifs. Le Saint-Esprit vient à la Pentecôte, et il touche des disciples de toutes les nations, mais c'était des Juifs qui étaient venus pour fêter la Pentecôte. Et à ce moment-là, on a beaucoup de gens qui vont se convertir, et donc l'Église est essentiellement juive. Et petit à petit, et on le découvre en lisant le livre des Actes, le Saint-Esprit va aller toucher toutes les nations. Il va commencer par petites touches, et puis on va officialiser ça en Actes chapitre 10 avec Corneille. Et donc là, c'est l'ouverture aux païens. Vous pourrez suivre la série, là je fais juste une petite synthèse. Et donc on voit cette nappe qui descend du ciel, toujours en acte 10, avec l'apôtre Pierre qui voit cette nappe descendre et donc qui lui indique que plus rien n'est impur, que maintenant il peut manger de tout. Et donc du coup, même l'alimentation change et toutes ces petites touches arrivent au fur et à mesure. Et on arrive au chapitre 15 et là, gros problème. Gros problème, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Certains montent au créneau et interpellent l'apôtre Paul et Barnabas, qui étaient à l'époque à Antioche, et ils se font titiller sur le sujet de la circoncision. Pour certains juifs, il était nécessaire d'appliquer la loi et de se faire circoncire. Alors, mesdames, vous allez vous dire, nous, ça ne nous concerne pas, mais les messieurs étaient très concernés, parce que là, ils parlaient de se faire circoncire à l'âge adulte. Hein, s'il y a des païens qui rentrent dans l'église, si on rentre à l'âge adulte, on se fait circoncire, c'est plus la même. Hein. Là, on se dit, oh, on va étudier de près la question. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, et grâce aux apôtres, mes amis, j'ai l'honneur de vous dire que nous n'avons pas besoin de nous faire circoncire. Et cette question a été débattue dans les premiers versets du chapitre 15 jusqu'au verset 18, et c'est ce qu'on a traité. Si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, là je passe quelques versets, il faut réécouter ce message. Les apôtres tranchent la question de la circoncision. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'on remettait finalement en cause le salut. Le salut, c'est s'obtient par la grâce. Si vous ajoutez quoi que ce soit, le salut plus l'obéissance, le salut plus la circoncision, le salut plus un chiffon sur la tête, le salut plus l'abstention de certains aliments, mes amis, vous faites du salut du troc. Parce que vous essayez de contribuer à un salut que seul Jésus a pu opérer à la croix. Personne ne peut contribuer. J'avais pris cette image. Si Dieu construit 999 km d'autoroute et que vous, vous voulez construire le seul petit dernier kilomètre, votre autoroute va s'effondrer. Seul Dieu est responsable du salut. Il a tout fait, tout accompli à la croix pour ça. Et à partir du moment où ces Juifs voulaient ajouter, même pas grand-chose, la circoncision, finalement, on n'ajoute pas, on en retranche. Et bien même ça, c'est pas bon. Que tu ajoutes ou que tu retranches, quand on touche au salut, les apôtres sortent les crocs. Et ils jouent les pitbulls, et c'est ce qui se passe, 18 versets, où ils vont vraiment argumenter. Et là, j'avais trouvé 4 séries d'arguments que Paul, Barnabas, Jacques et puis je ne sais plus qui d'autre, Pierre avait donné pour montrer que le salut s'obtient par la grâce seule. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ceci rappelé, les apôtres vont prendre une décision qui nous surprend. Parce qu'au premier abord, ça pourrait presque sembler légaliste. On va lire le texte, vous allez voir, c'est assez étrange. C'est assez étrange. Et ils vont donner quatre mesures qu'ils jugent indispensables. Le mot est dans le texte. Ils vont juger quatre mesures indispensables. Pourquoi ? Pas pour le salut, non, pour maintenir l'unité relationnelle dans l'Église. Et là, on n'est plus sur le même niveau. Autant, au début, ils donnent énormément d'explications, des arguments, ils sortent l'artillerie lourde et ils nourrissent, ils vont nourrir quand il s'agit du salut. Autant là, ils donnent des consignes, point barre. Parce qu'ils y ont réfléchi en groupe. Et c'est le texte qu'on va voir ce matin. Et je le trouve d'autant plus important pour une église internationale, parce que vous allez voir que le problème qui va être soulevé là ce matin, c'est un problème culturel. Et il ne faut pas négliger les problèmes culturels, parce que c'est souvent de petits problèmes finalement, de problèmes d'incompréhension que naissent les divisions. Je connais beaucoup plus de divisions pour des petites broutilles que pour des sujets doctrinaux fondamentaux. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder ces choses de près, parce que certains vont se sentir piégés, alors que d'autres vont se sentir totalement libres. Et il va y avoir du jugement. Ah oui, mais lui fait ça, lui porte ceci, lui mange cela. Tout ça parce qu'on a une compréhension différente de certains sujets. Ce matin, j'espère que ça va clarifier les choses, que je ne vais pas embrouiller les pistes, mais on va reprendre l'Écriture et pas simplement se limiter à ce texte. Vous allez voir, on va balayer et l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais avant, relisons tout de suite notre texte et on va lire du verset 19 au verset 29. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. « Vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut !» Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui apporteront de vive voix le même message, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder à Dieu. Et là, il termine la lettre qui est adressée donc à plusieurs églises. Et donc, ce que je disais, certains, en lisant ce texte, ont arrêté de manger du boudin. Je serais curieux de savoir qui ne mange pas de boudin dans la salle. Ok. J'aimerais juste savoir ceux qui ne mangent pas de boudin parce qu'ils ont lu ce texte dans Acte 15. Il y en a 3. 4. D'accord. Ok. Aucun jugement, les amis. Aucun jugement. Et je vous demanderai à tous ceux qui mangent du boudin, ou qui n'en mangent pas, mais par goût, de ne pas juger. Et vous allez comprendre pourquoi. À l'UIG, on croit que l'Église est née, a démarré au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Pour nous, c'est l'événement déclencheur de l'Église, même si on ne nie pas que le peuple de Dieu existait avant l'Église au travers d'Israël. On pense que l'Église de Jésus, celle qu'il a promis de bâtir, en Matthieu chapitre 16, verset 18, hein, il dit « Je bâtirai mon Église », Israël existait déjà. Donc il a promis de bâtir son assemblée. Ecclésia, c'est assemblée, ça veut dire la même chose. Donc son Ecclésia, et il l'a acquise en Éphésiens 1:4 par son propre sang. Donc, il a promis qu'il allait la bâtir et il a inauguré cette église le jour de la Pentecôte, lors de la venue du Saint-Esprit. À ce moment-là, l'église va devenir le lieu qui rassemble à la fois les juifs qui sont fidèles à l'ancienne alliance et les païens qui étaient éloignés de l'alliance. Finalement, par l'Église et au travers de la Nouvelle Alliance, Jésus va réussir à rassembler ce qui était clairement séparé dans l'Ancien Testament. Tout ce qui était sous le régime de l'Ancienne Alliance, finalement. Et comme le dit Paul en Éphésiens, Jésus va abattre le mur qui séparait les Juifs des païens. Ce n'est pas un mur littéral, mais une barrière qui était invisible, érigée par la loi de Moïse, dont les commandements séparaient le peuple d'Israël des autres nations. Voici comment Paul exprime ce changement. Et c'est important, je fais ce rappel pour que vous compreniez la nature profonde de l'Église. Qu'est-ce que Jésus est venu instaurer? Sinon, on serait juif aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit dans le livre des Actes. Dans Éphésiens. On va lire les versets 11 à 17. « Souvenez-vous donc de ceci. » Il parle de l'Église ici. Autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était nous, les amis. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui, notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a, dans sa chair, annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, en l'accomplissant, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il a rassemblé en un seul corps, juifs, païens. Il a abattu ce mur qui nous séparait et il l'a rassemblé dans un seul corps qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. En faisant mourir par elle l'inimitié, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Je disais que ici Paul parle de l'Église, le nouveau peuple de Dieu, la nouvelle humanité. C'est nous dont il s'agit. Et cette nouvelle humanité, elle est composée du peuple juif, des gens qui étaient fidèles à l'Alliance et des infidèles à l'Alliance du peuple païen. Mais tous ces gens qui se sont retrouvés en Christ, qui se sont reconnus pécheurs, coupables devant Dieu, qui ont reconnu en Jésus-Christ le sacrifice ultime pour leurs péchés. Et les Juifs et les païens ont reconnu la même chose, et c'est Christ qui vient nous unir les uns avec les autres. Et donc sur la feuille, en théorie, on est au même niveau, les amis. L'Église, elle est là, elle est le principal outil de réconciliation. On va réconcilier l'irréconciliable. Si un juif voyait un samaritain, ou qu'il passait même, qu'il dépassait la douane, la frontière, qu'il mettait ses pieds, vous savez ce qu'il faisait? Il secouait la terre de ses pieds parce qu'il ne voulait pas ramener de l'impureté sur la terre d'Israël. Il secouait les chaussures de ses pieds, littéralement. Comme si vous aviez marché dans une crotte de chien. C'est ce qu'il faisait quand il franchissait juste. Vous allez marcher à la douane, vous franchissez un pied, puis vous allez nettoyer votre chaussure. Ce serait horrible de faire ça. Et bien, c'est ce qui se passait. Donc, vous voyez qu'il y avait une profonde inimitié entre les Juifs et les païens. Ici, j'ai mis une image forte. Mais l'Église, elle est venue faire ça. L'Église, c'est le lieu de réconciliation des frères ennemis. C'est le lieu de réconciliation entre les Juifs et les Palestiniens. C'est la réconciliation entre les soldats ukrainiens et les soldats russes. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce que l'Église est appelée à faire. C'est pour ça que l'Église ne doit pas se revendiquer juive ou même païenne. On est les deux. On est les deux. Alors on aime le peuple d'Israël, on prie pour le peuple d'Israël, pour qu'il se repente, pour qu'il re-rentre de nouveau dans la communion avec son Seigneur. Mais ils ont rejeté le Messie aujourd'hui. Et on est triste de ça. On est triste. Mais on ne doit pas non plus créer une église juive. Pas plus qu'on créera une église brésilienne. Pour le moment, il y a 3-0, les amis, cette année. Hein, on remet le match en jeu après chaque baptême. Mais l'Église ne doit ni être brésilienne, ni suisse, ni française, ni dominicaine, ni sénégalaise, ni côte d'ivoirienne. Elle est Église de Jésus-Christ, où elle rassemble toutes les nations, juifs y compris. Ça, c'est la véritable identité de l'Église. Mais vous savez, ça, c'est sur la feuille. Parce qu'au départ, les Juifs étaient quasiment composait exclusivement l'Église de Jésus au tout départ. Il n'y avait quasiment pas de païens. Et ils ne se posaient pas de questions. La plupart des Juifs mangeaient cachère. Ils ne mangeaient pas de porc. Ils ne mangeaient pas de viande étouffée. Ils ne mangeaient pas de viande sacrifiée aux idoles sur les marchés. Surtout pas. Ils allaient faire leur bain rituel dans la mikva. Ils respectaient la loi. En fait, la plupart des juifs, enfin des chrétiens, fonctionnaient dans l'église comme une synagogue. D'ailleurs, les premières églises ont eu lieu dans les synagogues. Et on voit ce peuple-là qui voit les juifs, les non-juifs arriver dans l'église et se poser des questions. On se dit « Oh, comment on va faire là ?» Et là, ça pose des questions. C'est la cohabitation. C'est comme dans un mariage. Vous savez, avec mon épouse, on fait de l'accompagnement au mariage depuis des années. Et puis, on a observé que lorsque des mariés de cultures différentes s'adjoignaient, ça posait plus de problèmes que quand on venait de la même culture. Je vais juste prendre un exemple ici, parce qu'ils sont là. Ils se reconnaîtront partiellement, je n'ai pas mis toute leur tête. Hein. Mais un mariage franco-suisse, mes amis, ça peut faire des éclairs, notamment sur le plan culinaire. Parce qu'il y en a qui sont fiers de mettre en avant le côté du fromage suisse. Le gruyère suisse, il est labellisé sans trou. Mais quand un Français, alors ça c'est pour les Suisses, quand un Français parle de gruyère, il parle d'emmental avec des gros trous. Le jour où j'ai osé dire qu'il y avait des trous dans le gruyère, parce que c'est une expression qu'on utilise en France, j'ai failli me faire lapider dans cette église. Alors, vous ne l'avez peut-être pas encore vécu, les deux tourtereaux, mais on sait que quand on vient de cultures différentes, parfois c'est un détail, mais ça peut conduire parfois à des difficultés. Et ça n'a pas manqué. Et les apôtres ont vu la chose. Il y a eu une petite alerte qui avait lieu en acte 6, vous vous souvenez ? Les femmes juives qui étaient restées à Jérusalem, qui étaient juives, mais qui venaient de la diaspora grecque, donc les hellénistes, ces femmes-là, elles n'étaient pas considérées de la même manière que les femmes juives. Et ça posait un problème. Qu'est-ce qu'ont fait les apôtres à ce moment-là ? Ils ont nommé des Grecs comme diacres pour prendre en charge ces femmes-là, ces familles. Et ils ont résolu le problème. Mais à votre avis, est-ce qu'on a résolu tous les problèmes en nommant 6 diacres ? Ben non, parce qu'à Antioche, il y avait de nouveau le problème. Et ce problème allait se multiplier partout dans toute l'Europe, parce que l'Église commençait à grandir. Et donc, ils ont dû prendre des mesures. Et là, il y avait beaucoup de judaïsants qui venaient et qui étaient choqués par l'attitude des païens. Et donc, ils ont dit, oulala, les amis, ça commence à chauffer, là, il y a une grenade qui a été dégoupillée, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, ils se rassemblent, et c'est là qu'a lieu ce concile. Ils vont déjà régler la question du salut, parce que ça, c'est fondamental. Donc, le salut s'obtient par la grâce seule. La circoncision, tu la prends, tu te fais circoncire si tu veux, mais tu viens pas ajouter ça à ton salut, s'il te plaît, ou pas enlever ça de ton salut, s'il te plaît. Donc ça, c'est réglé, ok ? Donc la question fondamentale, on l'a mis de côté. Maintenant, on va s'adresser à une question culturelle, d'accord ? Donc on n'est pas au même niveau. Ok ? On ne traite pas d'un sujet fondamental. Je ne sais pas si vous avez vu la fin de la lettre, mais ils espèrent qu'ils vont mettre en pratique ces choses. Ce n'est pas un commandement. C'est des règles pratiques qu'ils leur demandent d'appliquer. Alors, quand je dis ça, il y a aussi du commandement. Hein ? C'est pas une option non plus. Pourquoi ? Parce que, si vous avez remarqué, dans les commanditaires de la lettre, il dit « il nous a paru bon ». Il y avait qui ? Les anciens, tous les apôtres, Jacques qui, lui, rédigeait la lettre, et le Saint-Esprit. Rien que ça. Et donc, quand il y a un consensus à ce niveau-là, je pense qu'on n'a pas trop à la ramener, en fait. Hein ? Et donc, c'est quand même une lettre à prendre en considération. Mais nous, on a plus que le livre des Actes. Nous avons les Épîtres. Et donc, on ne doit pas se limiter au livre des Actes, parce que vous le savez, le livre des Actes est un livre narratif. Et ce qui est narratif n'est pas toujours normatif. Bien, vous avez retenu la leçon. Ça fait juste 250 fois que je le rappelle, mais quand vous prenez le livre des Actes, attention. Oui, ce matin, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on doit mettre en pratique et d'autres, pas forcément. Et c'est à nous de reprendre toute l'écriture et de faire une sorte de théologie biblique. C'est pour ça que ce matin, je vais avancer un peu vite, peut-être pour certains. J'enverrai mes notes pour ceux qui veulent. Vous pourrez réécouter le message à tête reposée parce que vous n'allez pas tout retenir. Mais je vais essayer d'aller assez rapidement. Le but, l'objectif des apôtres, c'est quoi ? De ne pas créer de difficultés aux païens qui se convertissent. Aux des païens, non, c'est aux païens, il y a le dé en trop là. Aux païens qui se convertissent à Dieu. Mais ça allait dans les deux sens, ce n'était pas unilatéral, parce qu'on voit bien que la liberté des païens, elle dérangeait aussi profondément les juifs. Et c'est ce qui va se passer, c'est que d'un côté, les juifs voulaient imposer certains rites, certaines choses aux païens, et de l'autre côté, la liberté des païens dérangeait profondément les juifs dans certains domaines. Et donc, ben voilà, faut ménager la chèvre et le chou, là. On est dans l'église, maintenant, comment on fait ? Il y en a qui aiment le chorizo épicé et l'autre qui aime le chorizo doux. Qu'est-ce qu'on fait ? On enlève le chorizo ? Ou, ben, t'as le droit de manger du chorizo doux et toi, t'as le droit de manger du chorizo ? Hein, il y en avait dans la dernière agape, j'ai pris cet exemple. Mais... Vous voyez, c'est un petit peu cet ordre-là, ici. Alors, je dis ça, mais ça va peut-être un petit peu plus loin. Le chorizo, ils n'en auraient jamais mangé. Pourquoi ? C'est du porc, évidemment. Donc, ils n'auraient pas mangé de porc. Et donc, ils vont leur donner quatre règles et qu'ils jugent indispensables, d'où le titre du message. Hein. Et je vais essentiellement traiter ce verset-là, parce que tout le reste, finalement, c'est un petit peu du blabla pour expliquer voilà ce que vous devez faire. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable. Donc, vous voyez, il y avait probablement d'autres choses, mais ça, c'était le minimum vital. Si on veut vivre la cohabitation paisible dans l'Église, alors il faut mettre ces choses en pratique et ça va rouler. D'accord ? Première chose, vous ne mangez pas de viande sacrifiée aux idoles, vous ne consommez pas de sang, vous ne mangez pas des animaux étouffés et surtout, vous ne pratiquez pas l'inconduite. Ou, il y a un autre terme, c'est la débauche. On regardera ces quatre points dans le détail. Mais je pense que vous allez comprendre qu'il y a des points qui se rapprochent ici. Première chose, ne pas consommer de viande sacrifiée aux idoles. J'aimerais juste savoir, cette semaine, qui a été acheté de la viande au supermarché ou chez son boucher ? Il n'y a personne qui mange. Oui, il n'y a que des végétariens dans votre église. Quelques-uns ? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment la viande a été abattue ? Est-ce que la viande, la tête de l'animal a été orienté vers la Mecque, vers Jérusalem, vers Genève, pourquoi pas. Vous vous êtes posé la question ? Non ? Est-ce que vous vous êtes posé la question si quelqu'un avait fait une prière sur la viande ? Non ? Eh bien, eux, ils se posaient la question. Et un musulman, aujourd'hui, ne mangera pas de viande où le sacrificateur, c'est comme ça qu'on les appelle, le sacrificateur n'est pas labellisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit musulman, il faut qu'il ait fait une prière particulière, je ne vais pas vous la citer, mais j'ai tout noté, et il faut aussi que l'animal qu'il va exécuter, sacrifier, soit vivant. Ensuite, il faut qu'il ait un couteau bien aiguisé et qu'il tranche tout, les artères, la carotide, mais qu'il ne touche pas la moelle épinière. Donc, c'est pas n'importe qui fait ça, mais c'est pas le boucher du coin. Et il doit faire une incantation, à un moment donné, il prie au nom d'Allah. Et donc, la tête du mouton, si c'est un mouton, tac, elle doit être orientée vers la Mecque. Voilà de la viande halal, comment c'est fabriqué aujourd'hui. Ça vous dérange pas? Eh bien, les Juifs, ça les dérangeait profondément. Ils n'auraient jamais mangé une viande qui était sacrifiée aux idoles, parce que c'est ce qui se pratiquait dans les temples. Et les païens, eux, faisaient des offrandes. Ils faisaient des offrandes à des dieux païens, et ensuite, ils revendaient la viande sur le marché. Donc, vous voyez qu'il y avait quelque part, si on achetait de la viande, ils ne voulaient pas s'associer avec une quelconque idolâtrie. Et on peut les comprendre. Pourquoi ? Parce que Israël a été détruite, hein, la nation d'Israël a été détruite essentiellement à cause de l'idolâtrie des Juifs. C'est ça qui a détruit la nation d'Israël. Et je vous passe les textes, mais vous pourriez lire 2 Rois chapitre 17, par exemple, 2 Chroniques chapitre 36, et vous verriez que le peuple d'Israël a été jugé sévèrement par Dieu à cause de l'idolâtrie. Le roi Salomon, il avait bien commencé. Il a mal terminé sa vie. Pourquoi ? À cause de l'idolâtrie de ses femmes. Et il les a suivies. Et vous voyez que l'idolâtrie des peuples païens qui attirent les Juifs vont les détourner du Dieu d'Israël et donc finalement va les amener à leur perte. Et donc c'est pour ça que les Juifs sont très sensibles à tout ce qui touche à l'idolâtrie. Et donc pour eux, c'était une vraie préoccupation. Pour nous, franchement, on est totalement détachés de ça. Pas forcément tout le monde, mais la plupart d'entre nous, on ne se pose pas la question, on prend notre bidoche dans un sachet sous cellophane et on va la faire cuire, et puis ça sera la même viande, après tout. Hein. Et vous n'avez pas tort. Mais certains sont parfois plus sensibles que d'autres dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que vous faites du commandement qu'il y a là ? C'est dans la Bible, c'est dans le livre des Actes, c'est adressé à des chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait de ce verset ? Est-ce que maintenant, lundi matin, vous faites vos courses, vous allez au supermarché, vous adressez au boucher, vous lui demandez « Excusez-moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que le boucher qui a abattu ma viande, ou l'abatteur, est-ce qu'il est croyant ? Est-ce qu'il croit en des idoles ? Vous feriez ça ou pas ? Pourquoi ? C'est dans le texte. C'est dans le texte. Vous n'êtes pas des chrétiens fidèles à la Bible. En fait, il n'y a pas besoin. Parce que vous avez dû lire Romains 14, comme moi. Alors on ne va pas lire tout Romains 14, mais vous pourriez lire les 14 premiers versets, parce qu'ils sont édifiants. Mais là, on va se limiter juste à quelques versets dans Romains 14. Je sais, c'est Paul qui parle. Et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Notez-le, gravez-le dans votre tête. L'apôtre Pierre l'a dit en Actes 10. Ici, l'apôtre Paul le répète en Romains 14. Il va le répéter en 1 Timothée chapitre 4. Rien n'est impur en soi. Jésus l'avait déjà dit. C'est pas ce qui entre dans l'homme, dans ta bouche, qui est impur. C'est quoi ? C'est ce qui sort. On est d'accord ? Donc ces choses-là, mes amis, c'était pas clair chez les Juifs, mais on l'a maintes et maintes reprises dans le Nouveau Testament. Et j'ai cité 4 passages, mais il y en a d'autres. Mais, si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Ah, ok, respect. Ça veut dire respect. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie. Il y avait des moqueries qui se passaient. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur. Il le répète. En vérité, tout est pur. Mais il est mal pour l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui, pour ton frère, est une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. Si vous considérez que tout est pur ou que rien n'est impur, alors vous avez la liberté de manger de tout. Ok ? Ça, ça doit être clair et net. C'est mon cas, c'était le cas de l'apôtre Paul. Mais si ton frère juge que ce n'est pas le cas et que pour lui, il ne veut pas manger de telle viande, de la viande halal, je n'en mangerai pas. Ok, respecte-le. Et surtout quand tu l'invites, ne l'invite pas à manger un barbecue avec des merguez halal. S'il te plaît, s'il te plaît. Fais-lui des spaghettis au blé complet, sans lardons et ni avec de l'emmental, si c'est un Suisse. Des pâtes complètes à l'eau, ça devrait le faire. Du beurre, je ne sais pas, de l'huile d'olive, ça passe. Non, je vais loin là. Mais ce que dit l'apôtre Paul ici, c'est que ta liberté personnelle n'est pas plus importante que les relations, que la communion fraternelle. La communion fraternelle, la paix dans la relation est préférable à ta liberté. Ok ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je suis libre, oui. Mais si mon frère est un ancien alcoolique, je ne vais pas boire du vin devant lui. On est d'accord ? Si mon frère est un ancien musulman, je ne vais pas manger de porc. Par condescendance, par respect, par amour pour mon frère. Vous voyez ? Ça, c'est ce qu'on devrait faire. Parce qu'il n'a pas une conscience au même niveau que la tienne. Il lui manque peut-être certaines données. Il n'a peut-être pas lu ces textes où Dieu déclare que tout est pur. Mais dans ses habitudes de vie, dans son habitus, c'est enraciné et c'est compliqué. J'ai un ami missionnaire qui travaille dans la même mission que moi, qui ne mange toujours pas de porc, ça fait 30 ans qu'il est chrétien. Parce qu'il n'a jamais mangé de porc et qu'il ne veut même pas en manger. Et je le respecte. Mais il n'interdit pas les autres d'en manger, et il mange à côté de nous, et ça ne le dérange pas, vous voyez. Mais lui n'en mange pas, et je le respecte. Et je ne vais pas le chambrer en lui disant « Ah, tu pourrais manger du porc comme tout le monde, ah, tu t'en fiches, tout est pur. » Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de la pression. Donc, on n'est pas appelé à ça dans l'Église, les amis. On respecte. On respecte. D'accord ? Le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça que Dieu veut voir dans son Église. S'il y a des relations pourries, mais que chacun est libre de manger ce qu'il veut, ou justement, que ça choque certaines autres personnes, les amis, c'est pas bon. C'est pas bon. La paix, la joie, la justice, par le Saint-Esprit. On va aller beaucoup plus vite. Alors, pas sur ce deuxième point, mais sur les autres points. Deuxième point, deuxième ordonnance, deuxième mesure, indispensable, ne consommez pas de sang. Ok. Vous avez vu l'image, là ? Ça veut dire, tu ne manges plus de boudin. Tu ne manges plus de boudin. Bon, ça ne dérange pas 90% des gens, parce qu'il y en a qui trouvent ça pas bon. Donc, déjà, ils n'en mangeaient pas. Mais, bah, comme le texte le dit, bah, je ne vais pas en manger. Mais, il y avait des raisons pour ça. Et je vais remonter très très loin, dans le passé, à la Genèse. En fait, parce que vous allez voir que le sang avait une connotation très particulière dans l'Ancienne Alliance qui va changer avec la venue de Jésus. Il y avait un symbolisme que, si on prend juste le sang comme ça, oui, c'est quelque chose qui peut vous ragoûter, vous dégoûter, mais vous allez voir que ça avait du sens, parce que le sang, représentait la vie. Lisons ensemble Genèse chapitre 9. Noé, Dieu vient de raser la terre. On est juste après l'épisode avec Noé. Genèse 9, tout ce qui rampe, et là il y a des nouvelles règles. On était végétarien jusque-là et on va devenir omnivore. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mais aussi je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, et je le réclamerai à tout animal. Et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Comme l'homme est créé à son image, il est précieux. Et le sang représente la vie. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on voit cette règle qui est dure, hein, parce que là c'est la peine de mort. Hein. Pourquoi ? parce que tu ne prends pas la vie d'un humain, c'est un être créé à l'image de Dieu, il est précieux. Et comme il est précieux, eh bien la vie qui coule en lui, son sang, est précieux. Et donc, de ce point de vue-là, on ne doit pas manger un animal avec la vie, c'est-à-dire avec son sang. Et c'est pour ça qu'on devait vider les animaux. Et vous allez voir qu'il y a des règles, pas seulement culturelles, mais c'est aussi des règles hygiéniques fondamentales. Ça, on le verra dans le troisième point. Mais on voit cette injonction, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Et là, il y a à la fois un commandement et une raison. La raison, c'est que le sang, il anime la vie. La chair, c'est-à-dire la viande, c'est le sang, c'est la viande d'un animal mort. La viande, c'est un animal mort. Hein. Sans le sang, pardon, c'est un animal mort. Donc quand on mange un animal avec son sang, ça pourrait signifier qu'il est encore vivant. Ça, c'est pas bon, ça. Hein. Quand on mange quelqu'un de vivant, c'est assez barbare. En fait, et c'est pour ça qu'on devait saigner un animal. Quand on saigne un animal, on s'assure de sa mort, parce que le sang coule. Et quand le sang s'en va, eh bien, l'animal est mort. Et donc, c'est l'écoulement de la vie. D'accord ? Donc là, il y a un symbole. Cette interdiction va être renforcée par la loi. Lévitique 17, « Si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux, consomme du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Et là, on a une notion qui arrive. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, personne d'entre vous ne consommera du sang. Et l'immigrant qui réside au milieu de vous ne consommera pas de sang. Si quelqu'un des Israélites ou des immigrants qui réside au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en répandra le sang et le couvrira de poussière. Donc vous voyez, dès qu'il y avait de la chasse, on ne laissait pas le sang de l'animal à l'intérieur, on allait vite le saigner. Et vous allez comprendre pourquoi on faisait ça. Au verset 14, il poursuit, « Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en consommera sera retranché. » Alors vous avez vu ici, verset 11, la raison est énoncée assez claire, « La vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation. » pour votre vie. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est-à-dire que le sang, représentant la vie, quand on va asperger le sang, donc on va le prendre à quelqu'un qui est vivant, et on va couvrir quelqu'un qui a péché, et on va couvrir, on va expier. Expier, ça veut dire couvrir, hein, c'est une couverture. Donc on vient couvrir par le sang. Donc c'est symbolique. Il n'y a rien de magique dans le sang. Il n'y a rien de magique, c'était symbolique. Et donc, on voit ces choses-là qui commencent à apparaître ici dans le Lévitique, et c'est juste avant le Yom Kippour. Lévitique 17, c'est juste après le jour du grand pardon, où justement le prêtre, le sacrificateur, devait sacrifier plusieurs animaux pour son propre péché, celui de sa famille, et ensuite seulement après celui du peuple. On voit que le symbolisme dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est le support de la vie. Il va servir à expier les fautes. C'est 9:22, Hébreux 9:22, selon la loi, regardez ce qu'il dit. Donc ça, c'est dans le Nouveau Testament, mais il parle de l'Ancien. Et il dit, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc vous voyez que le sang qui représentait la vie au départ, maintenant, il va symboliser le pardon. Sans effusion de sang, donc sans la mort de quelqu'un à qui on a ôté la vie, et là c'est le symbolisme de l'Ancien Testament, on prenait la vie d'un animal et ensuite on répandait son sang pour être pardonné. D'accord ? Là le texte est assez clair, sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Mais ça c'était assez voilé pour les Juifs de l'Ancien Testament, mais qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien ça préfigurait un autre sacrifice qui lui allait être ultime, et c'était celui de Jésus. Et ça, c'est la réalité. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était voilé. C'est ce qu'on appelle l'ombre des choses à venir. Donc, on voit un petit peu, ça se dessine, mais c'est quand même pas si clair que ça. Dans le Nouveau Testament, ça va être clarifié, et c'est ce qu'on voit en hébreu, toujours au chapitre 9 et au verset 11 et 12. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Donc, il faisait exactement ce que faisait le grand prêtre. Mais regardez, « Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qu'il n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Et là, on voit que le sang prend un tout autre sens. Mais du coup, ce qui était valable dans l'Ancien Testament, le symbolisme de l'Ancien Testament va être accompli par Christ dans le Nouveau Testament. Du coup, la valeur du sang est différente maintenant. D'accord ? Le symbolisme n'est plus le même. On n'a plus besoin d'asperger le sang des animaux sur l'autel, sur le propitiatoire. On n'a plus besoin de faire ces choses. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus lui-même qui a répandu son sang pour nous. Il a fait ça pour nous une fois pour toutes, pour qu'on n'ait plus à refaire ses sacrifices quelque part. Et c'est pour ça que, à partir du moment où Jésus meurt sur la croix et qu'il ressuscite 3 jours après, les choses vont changer radicalement. Et c'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit descend, et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont se mettre en place et que l'Église va naître et que l'apôtre Pierre va recevoir cette vision qui va déclarer que tout est pur maintenant. Tu peux manger de tout. Ce qui était valable dans l'Ancien Testament ne l'est plus dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est une bonne nouvelle, finalement, si je dois faire ici une application. La plupart des règles alimentaires avaient une fonction symbolique, parfois hygiénique, on va le voir juste après. En tout cas, toutes les règles alimentaires étaient temporaires et indépendantes du salut. Aujourd'hui, mes amis, manger du boudin, ce n'est pas proscrit par la loi, ni par le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas encouragé non plus. En tout cas, si vous êtes avec des témoins de Jéhovah, ou si vous êtes avec des juifs, mes amis, évitez de manger du boudin, parce que finalement, vous allez les priver ou les empêcher de rencontrer le Jésus que vous connaissez. Et ce Jésus-là ne les juge pas, il les prend là où ils sont. Donc nous aussi, on doit s'adapter. Si vous êtes avec des amis qui n'aiment pas le sang ou qui ne veulent pas en manger pour des raisons personnelles, alors respectez-les de grâce, respectez-les, parce que c'est votre liberté, mais votre liberté ne doit pas aller à l'encontre ou être une pierre d'achoppement pour les autres, dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Et si vous n'êtes pas à l'aise, eh ben n'en mangez pas, ce n'est pas un problème. D'accord ? Vous êtes libre, soit d'en manger, soit de ne pas en manger. Mais surtout, ne jugez pas ceux qui le font ou ceux qui ne le font pas. Troisième élément, et là ça va aller beaucoup plus vite, ne consommez pas de viande avec son sang. Et là, c'est un peu étrange pour nous, mais le fait de s'abstenir des animaux étouffés, en fait, c'est l'équivalent de manger de la viande avec son sang. Hein ? Et ça, c'était une pratique qui avait lieu aussi chez les païens. Et les juifs, il ne fallait surtout pas que la vie reste. Hein. Vous avez lu Lévitique 17 avec moi. Donc, il fallait absolument égorger l'animal, enlever son sang. Et on va voir que ce n'était pas seulement parce que c'était le symbolisme de la vie, mais c'était aussi par règle d'hygiène. Écoutez ce qu'un spécialiste dit. Il convient de noter que la mise à mort d'un animal de boucherie est impérativement réalisée par saignée. La préparation bouchère produit ainsi des carcasses, corps de l'animal saigné, non des cadavres. La différence est fondamentale car l'évolution de la masse musculaire d'un animal saigné est totalement différente de celle d'un cadavre. Dans le second cas, elle se putréfie très rapidement et devient extrêmement dangereuse pour la consommation humaine. Dans le premier, elle est appauvrie en eau et s'acidifie. L'accumulation d'acide lactique due au métabolisme en anaérobiose des fibres musculaires fait passer rapidement le pH de 7 à 5,5. D'où la création d'un milieu peu favorable à la prolifération des micro-organismes. L'évolution après abattage s'appelle la maturation. Elle résulte de réactions biochimiques biochimiques très complexes à l'origine du développement de la tendreté et des qualités organoleptiques de la viande. Ça vous embouche un coin. À ce stade, nous ne pouvons qu'admirer la profonde sagesse du commandement de Dieu en Lévitique 17, 10 à 14. Outre le sens symbolique du sang pour représenter la vie, le sang est le seul tissu liquide irriguant en permanence l'organisme des vertébrés. Son élimination des masses musculaires est une mesure sanitaire de base. Ce commandement est maintenu par les apôtres en Actes 15, 19 à 21 et par deux fois. En effet, l'interdiction de consommer des animaux étouffés équivaut à celle de manger un animal plein de son sang, puisqu'il est non saigné. Fin de la citation. Aujourd'hui, mes amis, il y a peu d'animaux qu'on mange avec son sang. Quand vous allez à la boucherie ou dans votre supermarché, tous les animaux qui sont là, présents, ont été saignés, donc ont été vidés de leur sang. Et c'est pour ça qu'ils ont maturé. D'accord ? Processus de maturation. Mais vous pouvez aussi avoir des animaux étouffés ou avec leur sang. Et là, je m'adresse aux chasseurs, je sais qu'il y en a dans la salle. Un chasseur qui tue un gibier, eh bien, généralement, il va lui tirer dessus soit avec une flèche, soit avec une balle, et il ne va pas se vider totalement de son sang. Donc, quand on a du gibier, la viande va faisander. Donc là, il faut faire très attention, et ça, c'est un avertissement que eux connaissent. Les chasseurs savent très bien ce qu'ils doivent faire, justement pour ne pas s'empoisonner, parce qu'on l'a vu, il y a tout de suite des choses qui se passent à l'intérieur du sang. Il va y avoir des bactéries qui vont se développer, et ça peut être très dangereux. Donc, quand on a des chasseurs, ils savent ce qu'ils font. Mon grand-père était chasseur, j'ai des amis qui sont chasseurs. Donc, quand ils tuent un sanglier, il y a un protocole qu'ils doivent suivre, et on ne le fait pas n'importe comment. Et ensuite, bien sûr, nous, on a le privilège d'avoir des frigos, des congélateurs, ce qui n'était pas le cas de l'Ancien Testament. Et donc, vous voyez que ici, les mesures qui sont prises ici ne sont pas seulement des mesures culturelles ou culturelles, mais c'est aussi des mesures d'hygiène importantes. Dans ces pays chauds, il valait vraiment mieux ne pas manger le gibier, ou alors il fallait manger tout de suite. Vous voyez, on le tuait et on le cuisait quelques heures après, mais il ne fallait pas le faire faisander comme nous on fait, parce que ce n'était pas du tout le même climat. Voilà. Aujourd'hui, on a des mesures. Donc, ma précaution à moi, c'est si vous mangez du gibier, faites-le, c'est bien. N'imposez pas votre repas aux autres, mais faites attention aussi en mangeant des viandes avec leur sang, parce que ça peut être dangereux. Voilà, c'est juste un avertissement, mais il n'y a absolument pas d'interdit moral ici, parce que, justement, tout est pur. Okay. Vous n'allez pas manger de la viande avariée, j'imagine, quand elle ne sent pas bon, vous l'achetez, hein, on est d'accord. Ben, moi aussi, donc c'est la même chose. Si vous voyez que votre viande étouffée, ben, elle a trop faisandé, ne la mangez pas. Mais ça, c'est juste un conseil d'amis. Sinon, vous irez chez le médecin. Dernière pratique. Donc, jusque-là, vous avez vu que c'était temporaire. C'était juste à ce moment-là. C'était indispensable pour ne pas créer de division dans l'Église, et c'était temporaire. Et là, on a une mesure, et ça fait un peu bizarre, parce qu'elle est au milieu des autres, mais celle-là n'est pas du tout temporaire. Abstenez-vous de la débauche, hein, de l'inconduite. C'est-à-dire, n'ayez pas de relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lesquels il voulait insister. Pourquoi il fait ça ? Bah, parce qu'à l'époque, les rites d'adoration dans les temples païens comprenaient les relations sexuelles avec les prêtresses. En fait, c'était ni plus ni moins que des prostituées. Hein, on allait au temple, on payait, on faisait une offrande en argent, et quelque part, on faisait un petit échange. Donc, il y avait des relations sexuelles. Et c'était, bien sûr, tout le monde faisait ça, parce que ça faisait partie des coutumes, c'était dans la société, c'était culturel. Et les païens étaient adeptes de ces choses. Donc, ils pratiquaient, avec toute bonne conscience, l'adultère. Parce que la plupart d'entre eux étaient mariés, voyez. Et donc, dans le peuple juif, la fidélité, dès le départ... Hein, on le sait parce que Adam, il a créé une seule femme pour Dieu a créé une seule femme pour Adam, pas deux. S'il avait été pour la polygamie dès le départ, ça se saurait. Et c'est pas le cas. Et donc Jésus reviendra là-dessus. On sait qu'il y a la polygamie qui existe dans l'Ancien Testament, mais c'était pas la volonté de notre Père céleste au départ. Jésus le reprend Matthieu 19. Relisez Matthieu 19 si vous en êtes pas convaincu. En tout cas, les relations sexuelles ici dont il parle, c'est le terme porneia. C'est un terme générique qui comprend à la fois les relations sexuelles avec une femme, mais qui n'est pas la vôtre. Adultère, homosexualité, pornographie, prostitution. C'est un terme générique. Et donc, ce terme-là, c'est pour maintenant aussi. C'est pas simplement pour l'Église primitive. Pourquoi ? Parce qu'on a de maintes avertissements. J'en prends qu'un de texte, mais on a maintes avertissements dans le Nouveau Testament. Ici, nous allons le voir dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, mes amis. » Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, lisez ce verset. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. » C'est le même mot. Porneia. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans se livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà ce que Dieu veut, mes amis, pour chacun d'entre nous. Qu'on maîtrise nos pulsions, qu'on maîtrise notre corps. Ça, c'est un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il fallait faire pour les chrétiens. Donc, vous avez vu toutes ces règles alimentaires ? Elles étaient utiles pour un temps, elles étaient indispensables à ce moment-là, parce que sinon, on allait causer une division dans l'Église. Peut-être que pour nous, à l'EIG, ce sera d'autres règles, mais parfois, elles sont indispensables, parce qu'on va entendre des grincements de dents pour n'importe quel autre sujet, hein. Ça ne sera pas forcément alimentaire, mais à nous d'être attentifs les uns vis-à-vis des autres, à nous de veiller à ce que si nous, on est libre et qu'on considère toute chose comme pure, eh bien, on veille à ne pas être une pierre d'achoppement pour nos frères ou nos sœurs. Ça, c'est le plus important. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, ce n'est pas ta tenue vestimentaire, ce n'est pas si tu portes une cravate ou un habit de marque ou pas, ou ta voiture ou je ne sais quoi. C'est la joie, c'est la paix et la justice par le Saint-Esprit.